Nous sommes mercredi 4 décembre 2024, vous n'avez plus de gouvernement et vous écoutez le Dojo Bar.
Bah!
Bonsoir à tous, bonsoir Zergy. Je sais pas si tu nous
Salut.
Entends. Ouais, il nous entend. Bonsoir Mecton.
Salut!
Et bonsoir Antix.
Bonsoir.
Les usual suspects. Nous sommes effectivement partis pour la quête du dragon, là, comme on disait. Alors, le guerrier du dragon, hein, aux États-Unis, je rappelle que Dragon Quest est sorti sous le nom Dragon Warrior à l'origine. Bref, nous allons parler de.
Ça va parler d'un jeu qu'on ne connaît pas.
Oui, voilà, un jeu qui n'existe pas. Ça va parler de Dragon Quest 3 Remake, qui est donc la version. HD 2D.
Alors c'est même HD 2D Remake.
Ouais, donc c'est... Ouais, ça va. C'est
Square
One
Enix.
Step Beyond, quoi.
Square Enix.
Ça ne peut pas être... Il ne peut en être autrement. Jeu qui était jusqu'à présent inédit en France, me semble-t-il, parce que je crois pas qu'on ait...
Alors...
Ah, peut-être
oui, oui.
Peut-être...
Ah, si, si. Non, enfin, non. Oui et non.
La compil 1, 2, 3 est pas sortie en France, si je dis pas de conneries.
En fait, si, tu peux jouer à Dragon Quest 3 dans son portage mobile sur Switch.
Exact.
Ah. Ah bon, bah, donc quand même, il y a un petit truc.
Depuis très très longtemps, d'ailleurs.
Ok. Bon. Donc, voilà, dont acte. Mais nous allons commencer tout de suite par notre traditionnel tour de table de l'actualité. Je vais laisser la main... Alors, ça va être extrêmement court, hein, je pense, parce que l'actualité en ce moment est d'une... Ça va, c'est chiant, quoi. Ça, dire, il se passe rien de ouf. Tout le monde est en train de ronquer. C'est Noël bientôt, donc j'ai l'impression que tout le monde a sorti toutes les billes et que là, tout le monde est en train de se reposer. C'est vraiment très pénible. Je vais commencer par Monsieur Mecton. Parce qu'on avait déjà parlé du online de Animal Crossing version mobile.
Oui.
Et là, il y a un petit, voilà, un petit chapeau à tirer.
C'était juste... Voilà. Donc, je vous ai parlé du fait que la version mobile de Animal Crossing, donc la version freemium, allait fermer. Donc, c'est le cas depuis, si je dis pas de conneries, je crois que c'est vendredi dernier, ou jeudi, je ne sais plus. Et j'ai trouvé que c'était, eh bien, écoutez, une leçon sur comment terminer un Animal Crossing. C'est la première fois que je vois un Animal Crossing avec un vrai bon gros générique de fin. Écoutez, c'était très chouette. Le beau suivi de l'équipe de dev qui envoyait des petits messages déguisés sur les écrans de chargement. Alors, le message à base de « Merci d'avoir joué, on se retrouve bientôt ». Et petit sentiment, vous savez, quand un MMO termine, c'est la fiesta le dernier jour. Voilà. Même sentiment sur le jeu mobile où... Plein de joueurs étaient connectés et on s'envoyait des cadeaux à droite à gauche. C'était très sympathique. Voilà. Donc c'est une belle manière de terminer un Animal Crossing. Et donc ça s'est terminé sur une petite scène. Si vous connaissez The Office, la version US, le départ de Michael Scott donc se fait dans la cafette de la boîte avec tous les employés qui viennent lui dire au revoir. Bah là, c'était la même chose, sauf que c'est toi, personnage joueur, qui était accueilli par Marie, donc le petit chien, et plein de petits animaux de Animal Crossing, et qui te remerciaient pour toute la bonne humeur dégagée pendant les 7 ans qu'a duré cette version.
7 ans ? Ah oui, quand même, les mecs se sont arrêtés, mais...
Oui, donc voilà. Okay. Après, voilà, ça a été remplacé depuis mardi ou lundi par une version qui coûte 10 balles, qui est une version complètement offline, qui est le même jeu, mais où il n'y a plus ce petit côté communautaire qui était mine de rien, bienveillant, sympathique, et qui faisait du bien au moral en ces temps troublés.
Ok, bah, c'est une belle... ça ne s'est pas éteint comme Concorde dans un marasme total, ça s'est éteint...
Dans la gloire.
Dans la gloire et la fête, finalement on souhaite ça à tous les jeux qui s'arrêtent, de se dire
est-ce
bon,
que,
ok, on s'arrête,
Tom
on s'arrête.
Est-ce que Tom Nook est venu saisir les maisons de tous ceux qui ont arrêté à rembourser leurs prêts?
Ça aurait été incroyable.
Oh merde.
Non mais tu vois, je suis en train d'y penser, là. Dans la version freemium, à la fin, ils distribuaient une petite graine à tous les joueurs. Si tu plantais cette graine dans ton camping et que tu achetais la version payante, ce que j'ai fait parce que je suis un... Voilà. Au moment où tu lances la version payante, bah, la petite graine a germé, il y a un arbre à la place.
Alors, c'est mignon.
C'est mignon.
C'est mignon. Mais est-ce que Tom Nook vient le saisir, l'arbre aussi? Parce que la super Nintendo du gamin. Allons-y. Je vais enchaîner avec une petite nouvelle. Je voudrais m'adresser à nos petits camarades de la presse jeux vidéo. Avec un ton un petit peu grave, ce serait bien d'arrêter de faire du putaclic avec n'importe quoi. Parce que là, ça commence à se voir, en fait, par instant. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, Triangle Stratégie a disparu de l'eShop. C'est exactement comme ça que je l'ai lu des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois dans des publications francophones, anglophones, germanophones, italophones. C'est Triangle Stratégie a disparu. Et c'est vraiment comme ça que c'est titré. C'est genre, personne ne comprend ce mystère, Triangle Stratégie a disparu.
Est-ce qu'il a enfin un vrai nom ?
Non.
Non. Parce que là, quand même, Triangle Stratégie, hein, moi, c'est vraiment toi qui le trouve depuis le début. C'est que c'est le nom du projet, mais dans la boîte, tu
ça
vois.
Ça marche ou pas ? Bon. Non mais voilà, ce qui me casse les couilles, c'est qu'on sait parfaitement pourquoi Triangle Strategy a été retiré de l'eShop, c'est simplement parce qu'il était publié par Nintendo et qu'il repasse dans le giron de Square Enix. Donc la raison, elle est connue, c'est pas la peine de nous faire un titre en mode « On ne comprend pas pourquoi Triangle Strategy a disparu de l'eShop ». Si, on comprend parfaitement pourquoi, putain,
ouais,
de merde.
Et puis c'est pas comme si c'était pas arrivé il y a 4 mois avec...
Avec Octopath Traveler. Donc autant Octopath Traveler, ça a surpris un certain nombre de gens. Effectivement, pendant un petit moment, on ne savait pas exactement pourquoi. Et ça, c'est vrai. Hein, c'est pendant quelques heures, on n'était pas au courant exactement du pourquoi, du comment Octopath Traveler avait disparu de l'eShop. C'est vraiment un truc très sérieux là-dessus. Alors, tout le monde s'est posé la question, merde, pourquoi a-t-il été délisté ? Mais en fait, ça a été très rapidement, entre guillemets, pris en charge par Nintendo,
expliqué,
par d'autres, expliqué. En mode, bah oui, non, mais en fait, c'est juste, ça change de d'éditeur, donc faut qu'on le retire et qu'on le reliste. C'est exactement le même nom, c'est le même ID, c'est le même machin, mais on enlève, on remet. Donc, enfin voilà quoi, arrêtez, c'est vraiment ridicule.
Ce jeu a été retiré de l'eShop, la première raison va vous surprendre.
Non mais c'est exactement ça, ouais. C'est exactement ça, on est là. C'est non, c'est à un moment arrêté.
Moi ma théorie c'est que c'est un complot de Benedict.
Benedict Cumberbatch, je sais pas.
Ah non, Benedict, l'assistant du héros, celui qui décide de lâcher le barrage sur la capitale.
J'ai décidé de nous retirer de l'eShop. J'imagine bien avec la voix bien grave en anglais, là, en plus.
Française, français.
J'ai décidé de dissoudre le barrage.
Ah merde.
Et dissoudre la capitale au passage.
Oh putain. Bah, il a dissolu beaucoup de trucs, là. Hein. Dissous, enfin, c'est pas grave, on s'en fout. Bref. Je vais passer la main à Antix, on va faire un tout petit suivi sur un sujet qu'on a déjà ouais, abordé précédemment, qui sont les piquets de grève dans certains studios français contre notamment les fermetures, mais pas que.
Ouais, c'est un peu la mode aujourd'hui de parler de contestation contre le pouvoir en place, hein, après ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Big up à Michel. Hein.
Michel.
Tu seras remémoré comme... Non, en fait, on s'en souvient pas de toi. C'est pas...
Nos meilleures recettes de saucisses CGT.
Voilà. On avait dit pas de politique dans ce podcast, c'est raté.
Ah, mais j'ai appris que les communistes avaient organisé un barbecue à la sortie, tu vois, pour question de principe, quoi.
Mais justement, en parlant de barbecue communiste à la sortie, on va parler des piquets de grève, justement, on va revenir sur le sujet. Donc précédemment, Ubisoft avait lancé plusieurs grèves, pour notamment suite à la volonté de la direction de faire revenir tout le monde en télétravail. De faire revenir tout le monde au bureau et donc d'arrêter ou de diminuer le télétravail.
Non, attendez. De faire revenir tout le monde au travail parce qu'ils glandent chez eux toute la semaine, hein, c'est pécor.
Ça, on dirait mon patron. Hein.
Donc là, maintenant, il est temps qu'ils reviennent au travail. Ah, moi, je suis désolé, il y a eu un lapsus très révélateur de ma
part. Ok, Pascal Pro.
Qui a pas dit retour au bureau, elle a dit retour au travail.
Oui, c'est vrai.
C'est quand même très important.
Et bref, mais du coup, c'est pas le seul éditeur ou studio de développement français qui est dans ce cas-là. Il y a le studio Spiders, donc qui est notamment connu pour Mars Warlog. Alors c'était leur premier jeu, et tout un tas de tripotés de jeux AA en ambition scénaristique, et notamment, je crois, surtout édité par Focus de mémoire. Et l'autre studio, c'est Dontnod, donc un peu plus connu parce qu'ils ont s'occupé de Remember Me. Et Life is Strange, ces deux studios en fait où actuellement il y a des grèves, il y a des manifestations des syndicats et des travailleurs par rapport à la direction et à des projets de la direction, notamment de plan de sauvegarde de l'emploi, ce qui pourrait être traduit gentiment par en fait on va virer des gens parce que on a mal géré notre entreprise, on a besoin de thunes. Et en fait même dans certains cas, on est dans le cas de Spiders et a priori de Dontnod, on est même dans le cas d'entreprises qui pourraient fermer, hein, sans ce genre d'action. Alors, bon, c'est pas ouf, mais voilà, il y a quand même une situation importante. Et du coup, c'est des des choses qu'on a en ce moment en France. Je vous recommande très fortement. Donc, il y a eu deux émissions de Silence on joue, qui étaient sur les piquets de grève de Ubisoft et de Dontnod de mémoire, où justement ils donnent la parole aux employés pour comprendre les motivations derrière ça. Et récemment, ils ont fait un nouveau numéro de leur émission Gâchette Gauche qui parle justement de cette situation un petit peu plus globale. Donc voilà, si vous intéresse, je vous les recommande. Et pour terminer, on va faire un petit jeu. À votre avis, depuis le début de l'année 2024, combien y a-t-il eu de licenciements dans le secteur du jeu vidéo au niveau mondial? Et vous pouvez tout de suite y aller en milliers. Hein.
Mondial.
Mondial.
Ah, au niveau mondial.
Tu veux que je tire en premier?
Ouais, vas-y, tente un truc. On à combien près?
Je tente le 80 000.
Ok, j'ai envie de dire 125 000.
Ouais, alors vous êtes un petit peu trop au-dessus. Je vais pas vous mentir. Mais c'est quand même déjà pas mal. On est à 16 766 employés licenciés depuis le début de l'année.
Bien au-dessus.
Bien au-dessus, alors. Dont un quart juste par Microsoft. Et j'allais dire fun fact, mais pas vraiment en réalité. Le nombre de licenciements cette année est supérieur à celle des deux années précédentes cumulées. Et déjà,
oh, merde,
je pense que vous savez, ça avait bien commencé.
Ça, c'est moche comme stat, ouais.
Ça, c'est très très moche comme stat.
Voilà. Ouais, un petit peu pour vous donner une idée d'où on en était, c'est vraiment pas fun.
Ouais, ça pue.
Clairement, une industrie qui a voulu trop grossir. Maintenant, on doit couper des têtes, et puis je pense beaucoup d'employés qui sont dans ben, je sais pas si je vais terminer mon jeu, et je sais pas si mon studio va survivre après la fin de mon jeu.
Ouais, et puis c'est toujours le même truc, c'est qu'en fait, les mecs ils ont juste prolongé les lignes en se disant ah, si on continue comme ça, dans 5 ans, on a 400 000 salariés, oui, bien sûr.
Ouais, c'est super. Ouais, ouais. Ils font tous la même connerie, hein, c'est fou.
Ouais, non, mais c'est ouf quoi de se dire la croissance n'est pas éternelle, bref. Bien, on va quand même marquer une première petite pause musicale. Nous allons écouter donc un petit bout de la bande originale de Dragon Quest 3. Je précise que ce sont les versions orchestrales qui sont a priori dans le remake.
Tout à fait.
L'original est sorti sur NES, enfin, sur Famicom. Soyons un peu plus précis, sur Famicom, et donc avait des musiques 8 bits, mais il y avait déjà à l'époque une version orchestrale qui existait, qui était sortie en CD.
Oui, alors ça, on pourra en reparler un peu après, mais le compositeur du jeu, Koichi Sugiyama, il a très très vite monté des versions orchestrales et des concerts de jeux vidéo au Japon après la sortie de Dragon Quest.
Oui, tout à fait. Effectivement, on en reparlera de toute façon un petit peu, je pense, de la musique. Donc, sur les suggestions de mes petits camarades, on va s'écouter un petit morceau de la bande originale de DQ3 qui s'appelle donc Heavenly Flight, qui est donc la musique de quand on vole, m'a-t-on dit.
Voilà, pour résumer grossièrement. Bon, si vous avez joué à Dragon Quest 11, vous l'avez entendu. Hein.
Voilà. C'est impératif, enfin profitez-en en fait, c'est vraiment c'est très très bien comme morceau, la BO elle-même est vraiment de qualité, ça s'écoute très 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 bien. Voilà, on se retrouve dans un tout petit peu moins de 3 minutes, à tout de suite. Et nous voilà de retour. Et donc, Dragon Quest 3, première partie. On a coupé ça en deux, un petit peu comme d'habitude. On va commencer.
Je peux te faire la présentation déjà.
Voilà, j'allais dire, on va commencer par le pitch d'Antix, parce que c'est exactement ça. On va parler du jeu lui-même, hein, c'est-à-dire du phénomène qu'a été Dragon Quest 3, notamment au Japon, le jeu historique. Et on va voir un petit peu comment se déroule le scénario, tout ça, parce que finalement, il y a plein de choses à dire sur cette partie-là, et on verra la partie, on va dire, plus technique, système de jeu, tout ça, parce qu'il y a peut-être un petit peu moins de choses à en dire, petit peu moins parce que ça reste un jeu assez entre guillemets simple, hein, je mets des très gros guillemets, vous les avez vus. Mais voilà, commençons donc par le pitch. Que se passe-t-il ? Dragon Quest III, c'est parti.
Je ne m'étendrai pas trop sur le scénario de Dragon Quest III. Celui-ci est d'une simplicité et d'une pureté immaculée. On y incarne le héros qui part faire le tour du monde avec ses compagnons rencontrés au PMU du coin afin de terrasser l'archidémon Baramos tout en aidant au passage quelques pécores dans des villages paumés dans la Cambrousse. À la place, je vais plutôt vous conter une autre légende, celle d'un jeu qui a su déplacer les foules au Japon comme jamais auparavant, un beau matin de février 1988. Des files d'attente de plusieurs kilomètres pour certaines, qui contiennent notamment des écoliers faisant l'école buissonnière, et des gens qui se sont probablement gelés les couilles parce que bordel en février au Japon, c'est vachement froid. Bref, des fans consacreront le jeu d'Enix et de son papa Yuji Horii. Aider des illustrations d'un Akira Toriyama au sommet de sa gloire avec Dr. Slump et surtout Dragon Ball, des musiques du compositeur Koichi Sugiyama qui n'avait déjà plus rien à prouver en la matière et des compétences développeurs de Chunsoft, Dragon Quest III va faire définitivement entrer Dragon Quest dans l'imaginaire japonais, créant des générations de fans accros au sourire des slimes et récitant le nom des sorts du jeu à la cour de récréation. Pour un jeu dont le sous-titre japonais est « Et ainsi la légende fut », on pouvait difficilement faire plus approprié. Un phénomène qui restera très nippon centré puisque le jeu aura le droit à une discrète sortie aux États-Unis et pour l'Europe, on est dans les années 80, en matière de JRPG, l'Europe n'existe pas.
Le bâtard, c'est un gros bâtard, mais oui.
36 ans plus tard, c'est un épisode 3 endeuillé de deux de ses papas, Toriyama et Sugiyama, qui revient sur le devant de la scène. Les petites mains d'Art Dink, les créateurs de Triangle Strategy, ont troqué les pixels de la Famicom pour la technologie HD2D d'Octopath Traveler. L'occasion pour nous, joueurs de 2024, de revivre cet émerveillement qu'ont connu les joueurs japonais en 1988. Finalement, tel le héros du jeu qui suit les traces de son père dans sa quête pour défaire le mal.
Bravo !
Merci.
C'est très très bien. Donc effectivement, faut le rappeler, Dragon Quest III est un phénomène. Alors même s'il y a une légende urbaine un petit peu tenace qui veut qu'il y ait une loi anti-Dragon Quest ou que ce soit le gouvernement qui fixe la sortie de Dragon Quest, bon...
Non, en fait, c'est...
Un peu alors, exagéré, quoi.
C'est Enix, quand il s'est rendu compte du nombre de personnes qui avaient séché le bureau ou qui avaient séché l'école, apparemment, il y a eu plus de 200 écoliers qui ont été retrouvés par les flics en train de se balader pour essayer d'acheter le jeu.
Ouais, et puis déconne zéro là, au Japon là-dessus.
Ouais, il y a Enix, à mon avis, ils ont dit « Bon, on va éviter les emmerdes, on va sortir le jeu le samedi maintenant. »
Voilà, c'est vrai que ça a été un des jeux phénomènes, tellement phénomènes qu'effectivement, on en a parlé même aux États-Unis.
Ce qu'il faut se dire, c'est que même maintenant, enfin, même dans les sorties d'après et même maintenant, Dragon Quest, c'est un jeu qui marche encore très bien, ça fait partie des rares titres qui a tenu le million le jour de la sortie. Pour vous donner une idée, hein, Dragon Quest 9 sur DS, c'est 5 millions la semaine de sa sortie.
La semaine
La semaine. Et dans un seul pays.
Mais c'est ça, j'allais dire, c'est hors sortie internationale. C'est même
C'est ce niveau d'institution japonaise, en fait. C'est ça qu'il faut se dire. Même là, le remake, il est quasiment... Je crois qu'il a quasiment atteint le million. Faudrait que je revoie les chiffres, mais il a fait un très très bon score pour un jeu de 2024 au Japon où le marché est quand même beaucoup plus restreint qu'avant, quoi.
Oui, et puis en plus, où il y a de la concurrence, je veux dire, ça reste un remake d'un jeu qui est à 30 piges, pas tout à fait, mais même plus de 30 piges. Donc effectivement, c'est quand même... C'est peut-être compliqué à vendre auprès d'un public japonais qui le connaît peut-être déjà, surtout que, comme tu le disais, il y a eu plusieurs versions de Dragon Quest III.
Alors, il y en a eu beaucoup. En fait, il y en a eu pas mal, mais il y en a surtout eu que dans les 10 ans qu'on suivait la sortie du jeu. On a la version Famicom qui est déjà vendue à 4 millions d'exemplaires, hein. C'est pas très bien pour un jeu Famicom. Hein. Ensuite, on a eu un portage sur Game Boy Color, et on a eu un portage sur Super Nintendo, en 96. Et c'est vraiment les versions principales du jeu, plus un portage mobile que vous pouvez trouver sur Switch aussi. Le nom de Seeds of Salvation, de mémoire.
Ça qui n'est peut-être pas un intérêt non plus tellurique, hein, on va se le dire.
Beaucoup moins.
Si vous avez les moyens, la version dont on va parler aujourd'hui est plus intéressante, évidemment.
Tout à fait.
Par contre, des avantages des versions dématérialisées, plus besoin de se geler les couilles pour acheter le jeu, on perd une partie de l'expérience.
Je trouve qu'on perd une partie de l'expérience. Hein. Il faut vraiment aller faire la queue devant le magasin à 2h du mat, même s'il n'y a personne dans la queue. Hein.
Et je me demande d'ailleurs si c'est pas un petit peu le jeu qui a commencé ce phénomène au Japon, d'avoir des grandes queues d'attente à la sortie des jeux dans les magasins.
Phénomène qui n'existe quasiment plus aujourd'hui d'ailleurs, hein. Je crois qu'il
existe pour les iPhones.
Même pas.
Oh, c'est quelle tristesse.
Hugo, The Last of Us, c'est le Dragon Quest 3 de 2020. Oh la vache.
Ah, ça fait mal, hein. Mais il y a eu, non, mais il y a eu vraiment des, enfin, il y a eu une période comme ça où on avait l'habitude d'avoir des longues files d'attente. On se rappelle tous de la sortie de la Xbox 360 où il y avait des files d'attente, notamment aux États-Unis, de la sortie de la Xbox. Il y avait aussi les magasins qui orchestraient un petit peu ça parce que ça générait de la hype. Ça faisait que les journaux télé en parlaient. Alors que c'est un sujet qui est pas.
Les fameuses émeutes au Virgin.
Non, mais c'est ça.
Ah, ça, c'était chez nous.
Oui, mais enfin, en fait, il n'y a pas d'émeute, quoi. Il y a quatre connards qui se sont battus, quoi. C'est... Bon, il n'y a pas de quoi en faire un drame, mais c'est vrai que voilà, cette histoire de Dragon Quest 3, c'est quand même arrivé jusqu'aux États-Unis, le fait que... et ça a encore une fois créé tout un tas de légendes urbaines.
Ah oui, c'est passé à la télé aux États-Unis à l'époque, ouais. Hein, les files d'attente, parce que personne ne comprenait ce qui se passait.
C'est ça, alors que c'est parce que c'était le nouveau phénomène à la mode, le jeu vidéo, vous rendez-vous compte.
Ah, c'est déjà la preuve que Dragon Quest, c'était déjà une institution, enfin, ça commençait déjà à être très populaire au Japon. Et là, je pense que c'est l'épisode qu'il a un peu consacré en tant que phénomène de société.
Enfin, oui, parce que il me semble que Dragon Quest 1 et 2 avaient aussi été de francs succès sur Famicom.
Oui, oui, si on a eu un troisième, c'est que les deux premiers ont quand même bien marché.
Tout à fait.
Mais il faut vraiment se dire que c'est pas juste un jeu qui marche bien, Dragon Quest au Japon, ça fait partie de la culture. C'est tout au même fait. Titre que Star Wars aux États-Unis. C'est des références que les gens ont, c'est vraiment un titre très très grand public. Bah, et les ventes du jeu sur DS, encore une fois, hein, 5 millions d'exemplaires, ça reste la DS, mais ça reste 5 millions, quoi.
Extrêmement fédérateur, et puis en plus, avec malgré tout des sommités, puisque c'est Akira Toriyama au design, donc quelqu'un, enfin, c'est... Derrière Dragon Ball, c'est très connu.
Ouais, il était déjà connu, et puis... en fait, Akira Toriyama, avant Dragon Ball, Dr. Slump, ça marchait très très bien au Japon. Hein.
On a quand même à la barre aussi des gens un peu connus qui portent un petit peu le projet, c'est pas... Il sort pas de nulle part, c'est pas un truc... Voilà, depuis le début... Enix, avant d'être Square Enix, hein, je rappelle, Enix savait parfaitement ce qu'il faisait. Le produit était parfaitement calibré pour être un succès au Japon.
Oui, non, mais clairement, ils sont bah, en plus, ils se sont alliés avec l'éditeur de Toriyama à l'époque, quand il publiait Dragon Ball. Enfin, les mangaka travaillaient toujours avec un éditeur, hein, pour la partie publication. Et c'est lui qui, justement, avait poussé à ce qu'il bosse sur Dragon Quest. Parce qu'il sentait que ça allait marcher, et du coup, ils ont eu un deal. C'est que toutes les informations liées à Dragon Quest, toutes les annonces, seront dans ce magazine, le magazine V-Jump, qui était le magazine jeux vidéo un petit peu de la Shueisha, éditeur de Dragon Ball. Il y a vraiment eu des deals, en fait, à un niveau, genre, entre plusieurs éditeurs, plusieurs sociétés. Ouais, il y a vraiment des trucs importants là-dessus. Bah, d'ailleurs, ça viendra un manga qui s'appelle La Quête de Dai, ou Fly en France.
Yes.
Ah oui.
Basé sur justement l'univers de Dragon Quest.
Ah, intéressant, je savais pas que c'était le cas. Parce que je connaissais de nom le manga, j'ai déjà vu, mais je l'ai jamais, j'ai jamais lu, donc... Ok. En termes de scénario, c'est vraiment le classique de chez classique, effectivement, le héros qui n'a, je suppose, pas de nom, enfin, c'est le joueur qui lui donne un nom.
Il est muet aussi, hein.
Oui, normal. Donc c'est Link, le héros. Donc le héros qui, à partir de ses 16 ans, part à l'aventure pour tuer un méchant qui est très 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 méchant, il va faire le tour du monde pour aller tuer le méchant qui est très 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 méchant, et comme tu le disais, il va aller aider les pécores qui croisent au fur et à mesure, donc c'est... Enfin voilà, c'est la... J'allais dire le voyage initiatique, Frodo et tout ça, mais en fait non, c'est le voyage vers l'ouest.
Parce que lui, oui, c'est... Enfin, c'est pas
forcément... c'est la quête du héros, quoi, c'est le monomythe. Oui,
c'est le monomythe. Ça.
Sachant que dans son cas, son maître est déjà mort, puisque en fait, une des choses qui va sous-tendre le scénario, c'est le fait que le héros suit les traces de son père, Ortega. C'est quelque chose qui est un petit peu en fil rouge derrière, hein. C'est pas si important que ça, mais on retombe dessus. Des fois, hein, tu rentres dans un village, tu tombes sur le casque de ton père, et du coup, t'as un petit peu, il t'explique un peu ce qui s'est passé avec lui. Ça reste très très simple, mais en même temps, il y a ce côté, je trouve, simple mais efficace. C'est-à-dire, on perd pas de temps, on va droit au but. On ne sort pas des trucs compliqués à base de lignes temporelles, de... Non, en fait, c'était moi le méchant. Les méchants, ils sont méchants, point barre.
Tiens, à propos de lignes temporelles, il faut qu'on dise que le 3 est une préquelle au 1 et au 2. Et dans le 1, tu joues les descendants du héros du 3.
Donc, c'est
peut-être aussi quelque chose qui a dû jouer dans l'extrême engouement qu'a connu la sortie du 3e, c'est que c'était présenté comme la fin d'une trilogie. Qui allait le même engouement qu'on a eu sur Star Wars épisode 1, où on pensait qu'on allait avoir plein de réponses.
Bon, après, à l'époque, ils savaient pas que ça allait être une préquelle. Hein.
Il savait pas ? Ok, d'accord.
Non, c'était la surprise. En fait, nous, on le sait maintenant, mais à l'époque, c'était la surprise, justement.
D'accord, donc c'était fin de trilogie et surprise, quoi. Ok.
C'est peut-être aussi, peut-être pas la première fois, enfin, c'est pour 88, une préquelle en troisième épisode, c'est pas quelque chose de très courant, surtout dans des jeux qui, à l'époque, n'avaient pas des scénarios extrêmement... Enfin, c'était rarement des scénarios très, très, très développés.
Oui, puis c'est des liens qui sont assez, assez diffus. Peut-être quelques oui. références ici de là, mais c'est pas... C'est pas comme certaines séries ou certains films où bah, c'est les mêmes personnages, le même univers.
Oui, là finalement, c'est un peu déconnecté. Quoi.
Ça, c'est un petit peu plus subtil, faut être attentif. Bon, sauf a priori dans le jeu de l'époque, quand tu finissais le jeu, il disait clairement à suivre dans Dragon Quest 1.
Nice.
Donc en plus, il t'encourageait à racheter Dragon Quest 1 si par hasard tu l'avais pas déjà acheté. Mais...
c'est un peu ça.
C'est un peu ça. Sinon, tu disais... Oui, pardon.
Non, pardon, j'allais tenter une transition. Tu disais que c'était une première de faire une préquelle. En fait, il y a énormément de premières dans ce jeu, de choses qui nous semblent évidentes aujourd'hui, qui a priori ont été introduites par cet épisode.
Eh ben, allons-y. Alors, c'est une préquelle, déjà. Moi, je trouve que c'est quand même un peu original. C'est pas un truc que tu vois tous les jours. Donc, il y a un petit truc intéressant. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a été introduit par ce jeu-là, du coup
Eh bien, plein de choses. Écoute, je commence par le premier qui me vient en tête, c'est le cycle jour-nuit.
Oui, un cycle jour-nuit sur NES.
Ah oui, sur NES. Oui, c'est vrai qu'à chaque fois, je me dis un cycle jour-nuit, je me dis, mais en fait, non, c'est sur NES, putain.
Et, alors là, oui, dans le remake,
8
on a
ou 9 ans avant Ocarina of Time, on rappelle, hein, qui est un peu notre référence à nous, généralement.
C'est mais... un peu ça. Pokémon Or et Argent.
Oui, voilà, c'est quand même très très tôt, 88, c'est ça, au Japon donc,
88 au Japon, tout à fait.
Et un cycle aujourd'hui qui n'est pas que cosmétique. Il a des influences sur ce à quoi tu vas avoir accès dans les villages. Donc en gros, tu as des PNJ qui sont en train de dormir la nuit, ou je pense à les villes dans le désert, où au contraire, l'activité se passe la nuit. Les monstres que tu vas croiser sur l'Overworld sont vachement plus vénères la nuit. Je suis en train de me poser une question, c'est dans le remake, en fait, c'est aube, jour, coucher du soleil et nuit. Je sais pas si c'était le cas dans l'original, si c'était en 4 ah oui, comme ça ou si
quatre,
c'était en 2.
Je pense que ça devait être en 2, à mon avis. Hein.
Ah, ça, je pense aussi que ça devait être en 2.
C'est vrai que le crépuscule et l'aube, c'est pour les monstres en réalité. Ils sont une nouveauté du remake. Plus que pour les PNJ et les villes, finalement, qui ont un cycle vraiment binaire jour-nuit, quoi.
Oui, ce qui fait que ouais. ça permet de diversifier un petit peu la partie monstre sans trahir le jeu. C'est effectivement, t'as juste un truc binaire jour-nuit. Donc la nuit, magasins, enfin certains magasins sont fermés, d'autres sont peut-être ouverts, genre le cabaret est ouvert.
Ouais, c'est ça. Exactement.
Le cabaret est ouvert.
Non mais exactement. Oui, oui. Et tu vois, ça fait partie des petits détails qui font pour moi qu'on trouve un monde qui a l'air vivant. Quoi. Qu'est-ce que j'avais comme truc à sortir? Ça me reviendra, si vous voulez enchaîner.
Oui, niveau scénario, finalement, moi, ce que vous m'avez fait noter, c'est finalement assez simple. Hein, on a dit, c'est le héros, il part à la quête, il suit les traces de son père, et il va tuer un méchant très très méchant, mais c'est entrecoupé de tout un tas d'autres petites histoires, et notamment de petites histoires entre les PNJ, de petites situations un peu drôles, de petites quêtes annexes... pas toujours très intéressante, enfin intéressante dans leur situation. Moi, vous m'avez dit intéressante dans leur situation, pas dans leurs objectifs. Est-ce que vous avez des petits exemples ou des petits détails là-dessus? C'est-à-dire les micros histoires entre les PNJ, c'est genre tu débarques dans un village et puis en fait machin il fait la gueule à truc, donc faut trouver une solution quoi.
Moi j'en ai un, c'est un village alors qui dans la deuxième région du jeu où tu arrives et tout le monde dort. Il y a juste une personne qui est réveillée qui dit.
Tu sais que l'ai loupé.
Tu l'as loupé celle-là?
Ouais. Toi,
tu l'as loupé.
Ben, il est annexe, je suis allé oui, directement ailleurs.
Elle est annexe celle-là, et en fait c'est une quête où tu dois aller trouver un moyen de réveiller le village. Raconter vite fait ce qui se passe dedans, mais en gros t'es encouragé à rencontrer les elfes. Ils expliqueront qu'il y a un contentieux entre les elfes et les gens du village, et en fait tu vas aller réaliser, tu vas prendre en fait prendre ce qui s'est passé. Et quand tu découvres ce qui s'est passé, en fait le jeu te met une petite claque, une petite larmichette. Parce qu'au final, tu pensais avoir un jeu un peu léger, et là, on te sort, tombe sur une lettre d'adieu. Et là, genre, ah ouais, je m'attendais pas à voir ça dans un jeu qui avait l'air aussi enchanteur. Donc, il a réussi quand même à créer un petit, J'ai eu un petit sentiment un peu de... Ouais, il y avait un peu de tristesse à la fin, tu vois. Et elle découvre qu'en fait, c'est une histoire à la Roméo et Juliette un petit peu, et que ben, les amants ont décidé de mettre fin à leur jour. Et t'es là genre, ah, j'étais pas parti sur ça, en fait.
Oui, j'étais pas prêt, peut-être.
C'est ça, et pour le coup, j'étais genre, ah, ok. Et je me suis dit, c'était quand même plutôt cool, parce que juste avant, ma mission, c'était au long d'une tour pour casser la gueule à un bandit, et là, c'était quand même plutôt rigolard, quoi.
J'ai l'impression qu'un petit peu comme un petit peu à l'instar des mangas écrits par Toriyama, tu as le côté, ça peut être très très grave comme ça peut être très léger finalement. Il y a pas.
C'est... Moi, ça m'a pour le coup, ce qui s'est dépassé dans Dragon Quest 11, on avait sorti cet exemple de la
de sirène. La
tête chez les sirènes.
Ah, oui.
Et vraiment, c'est cet esprit-là, le côté où genre le jeu, tu as quelque chose d'un peu léger, très classique, et juste à un moment où il décide de sortir à la mirechette et ça marche trop bien.
Bah si c'est bien amené, en fait, si c'est bien écrit, effectivement, ça c'est le genre de truc qui fonctionne. Surtout que si on essaye, c'est comme dans un film, hein, finalement, si t'essayes de faire le tire-larme en permanence toutes les 10 minutes, ça fonctionne pas. Par contre, si t'amènes le truc correctement, si tout est un peu enjoué, tout d'un coup, dès que tu fais un truc, même finalement pas, entre guillemets, pas si grave que ça, tu vois, t'amènes juste une petite touche de tristesse à un moment, elle va avoir d'autant plus d'impact qu'elle est rare et elle est correctement amenée.
Oui, et puis en plus, comme on dit, là, c'est purement un axe, donc si tu as fait cette quête, c'est que tu as voulu t'y intéresser.
Ouais. D'ailleurs, les quêtes annexes, parce que moi, vous m'avez noté que finalement, les personnages, les situations étaient intéressantes, mais que les quêtes annexes elles-mêmes n'étaient pas extraordinaires. C'est quoi? C'est de la quête FedEx? C'est de...
Alors, c'est souvent, on dit, il y a un truc là, tu vas aller à cet endroit-là, et tu vas devoir faire un donjon à un moment.
D'accord. Donc c'est vraiment pas des choses folles.
Oh, quoique je dis ça, moi j'en ai eu une, c'était juste parler des villageois. Et en fait, t'avais toute une sous-intrigue derrière qui était assez réussie.
À coup de dialogue de PNJ, c'est ça?
À coup de dialogue de PNJ qui te raconte des trucs, mais...
Ouais, je pense, je vois de quoi tu parles.
À base de flashback.
Ah non, j'ai pas encore eu. Mais oui, les dialogues des PNJ sont très importants. Alors, non seulement parce qu'ils te donnent des indices sur où va être l'objectif, si on veut la faire courte, mais aussi voilà, donc on a clairement des longues quêtes annexes. Moi, ce que j'appelais les micro-histoires entre PNJ, j'ai eu l'occasion d'avoir des dialogues. Tu tombes sur un PNJ dans un village, je sais pas, qui va te dire tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu machin, je me demande ce qu'il devient. Et un petit peu plus tard, au détour d'une forêt, tu croises un pélo qui te dit non, mais en fait, j'ai quitté mon village, il me saoulait tout, j'en avais ras le cul, je veux plus jamais les voir.
Le truc pas du tout improbable, quoi.
Ouais, non, mais voilà, tu vois, ce genre de petits dialogues qui se répondent dans le temps, je trouvais ça plutôt intelligent dans l'écriture. Et tu t'y intéresses très bien, ça développe le monde, ça développe ton implication dans le jeu. Tu t'y intéresses pas, bah, passe par-dessus et le jeu il continue quand même, il n'y a pas de problème.
D'accord, oui, il n'y a pas de. Il y a, entre guillemets, rien d'obligatoire de ce point de vue-là, ça reste de la quête annexe, au sens où tu peux passer à côté sans problème.
En fait, moi, ce que je trouve assez rigolo, c'est que d'ailleurs, les quêtes annexes et les quêtes qui te font avancer dans le scénario, elles sont pas si différentes. Et t'as l'impression que le jeu, finalement, c'est une grosse quête annexe parce que t'es quand même assez libre de tes déplacements.
Oui.
Et ça, c'est un truc qu'on a plus vraiment dans les JRPG. Là, c'est vraiment. Il faut que tu comprennes où t'as, où il faut aller. Et au début, ça va. C'est comme dans Metroid, t'es sur une petite zone. Et à un moment, en fait, t'obtiens le bateau. Et là, t'as toute la carte du monde. Hein.
Mais du coup, c'est quand même pareil pour 88 sur Famicom. C'est quand même pas dégueulasse non plus, quoi. Parce que ça veut dire.
Alors, je pense que le monde devait être plus petit à l'époque.
Ou plus. Les mêmes zones, mais. Oui, les cases sont plus grosses. Et du coup, t'atteignais plus facilement ta destination,
oui,
voilà. Quoi.
Oui, mais ça n'empêche pas que la structure du jeu elle-même est très ouverte. Quoi.
C'est ça mais en termes de structure, je comprends pourquoi à l'époque ça a été vécu comme une révolution. Quoi.
Oui, surtout pour du JRPG qui avait peut-être tendance à être un poil linéaire à cette époque-là.
À l'époque, non, justement, c'était beaucoup plus libre.
C'est ça, si on veut y aller bourrin, c'est vraiment du monde ouvert. Quoi.
C'est complètement un monde ouvert pour moi.
Les 88, hein, les enfants. Hein, Je me permets. Donc c'est vraiment à partir d'une certaine mission, finalement, on te lâche en te disant, voilà, t'as tous les outils qu'il te faut, maintenant, tu te démerdes, ouais. Le monde est à toi, vas-y, démerde-toi.
On te lâche, t'es pseudo-guidé, mais si t'as envie d'aller où tu veux, bon, tu vas tomber, alors t'as des barrières de niveau sur les monstres, mais t'as surtout voilà, la barrière des clés, on dit que je sais pas si tu veux aller tout de suite sur ce terrain-là.
On peut aller rapidement, en fait, c'est... Littéralement, il y a des clés à récupérer pour ouvrir des portes et avancer.
Ah merde.
Pour que le monde qui t'est accessible soit de plus en plus vaste. Quoi.
Voilà, et ça, pour le coup, c'est le truc pas très subtil. On sent que c'est le game design de 88.
Voilà, des petits verrous de progression. Quoi.
Oui, mais après, est-ce que c'est pas justement pour éviter que tu te prennes un mur de difficulté?
Bien sûr.
Tu le vois très vite arriver, oui. Mais... Finalement, ça permet d'avoir quand même une aventure un peu graduelle, en disant, ok, bon, oui, tu vas aller à cet endroit-là un moment, mais c'est pour plus tard, donc pour l'instant, intéresse-toi au reste, t'inquiète pas, ça va venir.
Oui, non, je trouve que c'est une progression qui est très maligne. Alors, est-ce que le remake a simplifié un peu ça, ou autre chose? Ça c'est dur à dire, vu qu'on n'a pas joué à l'original, mais en tout cas, dans le jeu auquel on joue avec Mecton, c'est vraiment... souvent, t'as une zone assez grande que tu peux explorer, mais en fait, tu vas être très vite guidé vers les bons endroits et au final, tu vas pas aller dans des zones où tu vas te faire défoncer en un tour par les monstres.
Yes. Et en t'écoutant parler, j'imagine que toi aussi, tu as désactivé l'indicateur d'objectif.
Ouais, on pourra en reparler après, mais je vous recommande fortement de le faire.
Ouais, effectivement.
Du coup, on est plus proche de l'expérience d'origine où tu te balades à peu près où tu veux. Et d'un coup, tu vas voir le verrou de progression, tu discutes avec les PNJ, puis il y a machin qui va dire, ah oui, il paraît que il y a une clé, machin, qui permet d'ouvrir ce genre de porte, mais bon, il y a un connard qui l'a volé, la dernière fois qu'on l'a vu, il était là. Bon, et puis voilà. Des petits indices comme ça qui vont pouvoir te guider. Et moi, j'abuse de la petite feature qui a été ajoutée dans ce remake qui te permet de sauvegarder des bouts de dialogue pour relire des indices plus tard.
C'est très très pratique, et là où j'en suis, où t'es beaucoup plus ouvert, je suis content de l'avoir.
Ouais.
D'accord, ah oui, ça va jusque là, c'est-à-dire genre t'interroges la PNJ qui te dit moi dans la troisième pièce du donjon, ce serait bien de se mettre sur la deuxième dalle à gauche, et en fait si tu l'as pas noté, tu l'as dans le cul.
C'est exactement
ça. Ou ça va pas jusque là, enfin je veux dire, c'est vraiment un truc...
Ça. J'ai une énigme où tu te retrouves devant quatre boutons, et un peu ailleurs, t'as un gamin ou un barde, je sais pas, qui te chante une chanson, et la chanson, c'est la séquence dans laquelle il faut appuyer sur les boutons. Quoi.
Ah merde, ah oui d'accord, donc ça va vraiment assez loin en fait, on te distille les indices, et d'accord. Donc en termes de construction de monde, c'est assez intéressant finalement, parce qu'on te guide pas, c'est vraiment, les indices sont, j'allais dire, on te les donne très organiquement.
T'es réellement invité à aller parler au PNJ, je pense que c'est vraiment... C'est conscient de la part des développeurs de te dire, comme dans un JDR classique en fait, que tu jouerais sur table.
Oui,
j'allais dire...
On donne pas les solutions, on t'encourage à aller parler au PNJ pour avoir des infos. Bah, je pense que là, ça a été pensé comme ça. Et en plus, c'est assez malin parce que ça rentre aussi dans l'idée de... Ben, t'es un héros qui est là pour aider la veuve et l'orphelin. En plus d'aller détruire le mal, ben, va parler aux gens et intéresse-toi à eux, quoi.
Oui, il y a un côté très... ça fait effectivement beaucoup penser à du jeu de rôle sur table où le maître de jeu va incarner des PNJ qui vont distiller des indices et qui vont avoir chacun une petite personnalité. Et effectivement, ce qui est intéressant dans le jeu de rôle table, c'est le monde qu'on se construit entre le maître de jeu et les joueurs. C'est pas forcément ce qu'on est en train de jouer techniquement. Donc de ce point de vue-là, c'est plutôt malin, j'ai envie de dire.
Là, t'es à fond dedans, hein, parce que je crois qu'ils s'en sont jamais cachés. Les premiers Dragon Quest, ça se voulait des héritiers de Wizardry, quoi.
Je crois qu'ils s'en sont jamais cachés, de toute façon, du fait que l'inspiration venait clairement des jeux de rôle occidentaux sur micro-ordinateur entre 81 et 85-6, et qu'en fait, ils avaient essayé de l'adapter pour le public japonais. Hein, ça, c'est connu.
Je vais dire un truc de dingue, mais... Parfois, ce même feeling que dans Breath of the Wild, quoi. Tu vas discuter avec un PNJ qui dit « Tiens, j'ai suivi le sentier machin, j'ai paumé ma bourse, tu y vas, tu tombes sur la bourse, puis tu dis « Tiens, c'est rigolo, il y a un village juste à côté et tu y vas. »
Oui, d'accord, tu te retrouves vraiment embarqué dans le... Ah, ce serait dommage Bah, faut que j'aille rendre la bourse au mec, mais je peux prendre 5 minutes pour aller au village, quoi.
Ouais, ouais.
Oh bah là, il y a un peu de ça, hein. Vraiment, tu parles aux gens. Et d'ailleurs, on parlait de la personnalité des PNJ et compagnie. Il y a un truc qui est très très drôle dans la localisation française.
S'ils l'ont gardé, c'est chouette.
Ils ont tous des accents.
Des accents. Alors, est-ce que le jeu est doublé intégralement ou est-ce qu'on parlait simplement de l'accent écrit?
Alors, il y a un doublage dans le jeu qui du coup est anglais ou japonais au choix. Alors, je sais pas si en japonais ils ont des accents.
Mais je crois que si, parce que
je
me semble avoir lu un article qui dit que c'était très très chouette d'avoir gardé ces spécificités. Quoi.
Et du coup, dans la version française, je pense, la version anglaise aussi, ce qu'il faut se voir, enfin, vous le comprendrez quand vous ouvrirez la carte du monde la première fois où vous y aurez accès, vous allez voir que le monde Dragon Quest 3, il va vous rappeler quelque chose. Et vous allez rentrer dans des villages qui auront des noms ou une ambiance qui vous rappellera des choses de la vie réelle. Et bien par exemple, dans la première ville que vous allez rencontrer après la zone tuto, qui est un nom qui ressemble beaucoup à Rome, bah, tous les mecs vont parler avec des accents italiens.
Ah putain, c'est énorme. C'est typiquement le genre de truc qui est... Enfin, tu vois, c'est vachement étudié. C'est là où tu vois que les mecs ont pris quand même le temps aussi d'aller faire des choses un peu intéressantes et intelligentes, parce que ça rajoute aussi à la construction du monde, le fait de dire, bah, le monde est grand, donc les gens ont des accents un peu différents. Alors certes, ils parlent tous la même langue, parce que c'est plus simple pour toi, le joueur, mais ça n'empêche pas qu'en termes de world building, je trouve que c'est vachement intéressant de se dire, tiens, on va pas tous avoir le même accent, et bah, pas tous la même architecture, pas tous, voilà, il y a des trucs très classiques comme ça, mais voilà, pas le même accent, il y a quand même tu vas un petit cran plus loin, je trouve.
Et tu ils vont tellement plus loin que... Alors, c'est toujours avec des dialogues très courts, tu vois, très minimalistes, mais qui vont droit au but. Du coup, le jeu est rapide là-dessus, c'est plaisant. Mais là où je dis qu'ils vont très très loin, c'est que parfois, c'est le prétexte à des blagues.
Alors, on va expliquer le puff-puff. Hein. Moi,
le puff-puff, c'est un classique de la série. Mais au risque de spoiler un petit peu, il y a une région ambiance japonisante. Les gens parlent sous forme de haïku.
C'est pas mal ça non plus. Oui, donc en fait ils ont pas un accent mais ils ont une façon de parler quoi.
Voilà. Le puff-puff. Blague récurrente de la série. Alors je dis récurrent, j'ai fait 4, 5, 11 et 3. Là, systématiquement c'était présent. Le puff-puff, quand tu tombes dessus la première fois ça te fait drôle parce que tu te dis tiens, mon héros va aux putes.
Ah.
Ah oui, oui, la scène se présente vraiment comme ok là il va niquer.
Ah, attendez, là, il faut vous expliquer plus que ça, parce que là, c'est un peu... voilà,
moi, je pense qu'on va arrêter là-dessus et pas élaborer.
Ah non, il y a un twist qui est à mourir de rire, quoi.
Ça s'appelle le repos du guerrier.
c'est pas vrai.
Tu vois ton héros qui rentre dans un bordel, quoi, et tu as les trois PNJ qui t'accompagnent, qui sont là, non, mais moi, ça m'intéresse pas, tu fais bien ce que tu veux, enfin, voilà...
Ok. Est-ce qu'il y a une chute à votre truc là? Parce que
oui,
c'est pas pour dire, mais là ça commence
chute,
à. Voilà,
tu rentres avec la madame qui a des paroles un petit peu suaves, tout ça, et qui d'un coup te dit est-ce que ça te dérange si j'éteins la lumière? Et il y a un twist.
Mais ce qui est très drôle, c'est que pendant toute la séquence, t'as ces dialogues là, et en fond, t'as une musique, t'as la musique de la zone arabisante. Mm. Et une musique un peu mystérieuse, et t'es là, genre, mais dans quoi je m'embarque? Est-ce que je tombe sur un scénario annexe où je me fais attaquer par un démon?
Putain, j'imagine bien effectivement dans cette optique d'essayer de surprendre le joueur, tu vois, te retrouver dans un truc où effectivement... Ah, mais il se passe quoi, là, putain? Effectivement, pareil pour le world building, c'est plutôt pas mal. Bon, du coup, c'est quoi le puff-puff?
Bah, attends, je suis en train de te le mettre dans le petit chat privé, ah, tu vois si tu veux le spoiler ou pas.
En fait, ils vont juste jouer aux échecs, c'est ça? Attends, quoi? Bon, alors, j'ai lu ce qu'il y avait écrit par Mecto, je n'ai pas envie de le spoiler. Je me dis
voilà.
Que ça, il faut le découvrir par soi-même.
Tu vois.
Mais dites-vous que c'est un jeu qui est joué par des enfants, donc il n'y a rien de très grivois dedans.
Non, il n'y a rien de... Mais toi, en tant qu'adulte, quand la scène commence, mais qu'est-ce qui se passe, quoi?
Non, mais voilà, il y a un côté... Enfin, voilà, en le lisant comme ça, effectivement, je comprends. Mais alors, je suis désolé pour les gens qui vont nous écouter.
Ah non, il faut
qui
pas...
Qui nous écoutent et qui vont nous écouter. Il n'y a rien de mystérieux, hein, c'est pas... Voilà, c'est juste que là, je trouve ça très, très, très dommage de vous spoiler. Parce que je trouve ça très drôle, donc... Bah, jouez à Dragon Quest 3 et vous le saurez, ou jouez à n'importe lequel, puisqu'apparemment, visiblement, c'est un gag récurrent.
Ouais, alors là, celui-là en particulier, c'est la version Dragon Quest 3.
Voilà, bon, allons-y. Voilà, passons à la suite. Oui, on voulait revenir un petit peu aussi avant de passer sur, on va dire, plus la partie gameplay, système de jeu et ainsi de suite.
Qui a introduit beaucoup de premières aussi.
Effectivement, et on en reparlera. On voulait reparler un petit peu de la partie HD 2D, hein, finalement, parce que ça marche toujours très très bien, c'est très 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 joli.
Alors moi, je trouve que les 2D marchent très bien sur les personnages, mais sur les décors, ça se voit quand même plus que c'est de la 3D.
Oui. Ah, tu veux dire par rapport à Octopath Traveler ou stratégique qui avait tendance à avoir des textures entre guillemets un peu grossières, un peu pixelisées.
Pour moi, la 2D HD ou la HD, je sais plus dans quel sens il le dit, c'est quoi ce nom accroché dehors. C'est vraiment, il y a ce côté, tes personnages ressemblent à des personnages de Super Nintendo et les décors te donnent l'impression d'être des décors de la Super Nintendo. mais ils ont bénéficié des éclairages, des ombres telles qu'on peut le faire maintenant. Ça donne des très jolis rendus. Ça marche très très bien sur Dragon Quest. Les couchers de soleil sont magnifiques dans le jeu.
Oui,
oui, fois, oui, coucher... genre, oh, c'est le meilleur moment.
Coucher de soleil sur la mer, c'est à tomber.
Mais du coup, je trouve que le côté, on dirait des décors de Super Nintendo, mais en HD, ça marche pas du tout dans Dragon Quest 3, où on dirait juste des décors 3D.
Parce que c'est vrai que l'une des remarques qu'avait fait Mecton, c'est finalement, que ce soit Triangle Strategy, que ce soit Live Alive, que ce soit... Il y a quand même pas mal d'autres qui sont sortis comme ça, bah, Dragon Quest 3 dont on parle, je pense à Star Ocean The Second Story R, je pense à Tactics Ogre Reborn, qui adopte un peu ce style-là aussi. C'était, on dirait, la Super NES telle que je m'en souvenais. Je trouvais que le truc était drôle.
Toi, dans ma tête, Triangle Strategy,
c'était comme ça, quoi.
Sur Triangle Strategy, les textures étaient très gros pixels.
Oui, c'est ça. C'est vraiment,
là, t'es vraiment dans de la 3D léchée.
Ah oui, donc ça fait le contraste est peut-être plus marqué du coup.
Clairement. Clairement, t'as du vent dans les feuillages, ce genre de truc.
Après, il y a une différence, mais je trouve que si tu fais pas attention, tu la verras pas.
Je suis d'accord.
C'est un peu subtil, c'est assez subtil. Je trouve que c'est quand même suffisamment bien fait pour que ça se voit pas trop. Mais dès que tu fais attention, tu fais, ah, effectivement, c'est de la 3D.
Non, je suis d'accord. Puis au contraire, non. Ça leur permet de rajouter des petits détails. Genre quand tu vas dans une cuisine, tu vas toujours avoir un peu de vaisselle, des cuillères sales. Enfin, ça rajoute encore du côté vivant à ce,
oui, mais
à ce monde.
C'est très très joli. Et puis ça fait des ambiances aussi dans les niveaux. La pyramide, qui est le deuxième gros donjon du jeu, est vraiment très très chouette de ce côté-là.
Et qui est personnellement mon premier mur de difficulté.
Mais on y reviendra à ça aussi. Du coup, on a quand même toujours la petite patte Toriyama, hein, même si...
Et là, on la voit bien, on la voit très très bien.
Bah, c'est-à-dire que sur des personnages en 2D pixelisés, c'est là où ça se voit mieux. Je pense à Chrono Trigger, hein, quand je dis ça, parce que là, effectivement, mm-hmm. t'avais vraiment un style ultra marqué, quoi, avec ces personnages avec des grands yeux, avec toujours des vêtements avec des drapés. Enfin, c'est vraiment... Il y a un style Toriyama, quoi. Il y a une patte Toriyama, tu vois du Toriyama, ça se voit tout de suite que c'est lui, quoi. Il n'y a absolument pas de...
Moi, je trouve que là, ça se voit encore plus, c'est sur les monstres. Parce que pour
sur le
coup,
bestiaire, oui.
Comme dans le grand classique Dragon Quest, on ne voit pas vraiment les personnages en combat, on ne les voit pas agir. Par contre, les monstres, ils sont là, ils sont devant. Et puis, ils sont bien détaillés, ils sont bien animés et tout. Vraiment, les animations sont très très chouettes.
Oui.
Et la légende veut que Toriyama préfère dessiner les monstres que les êtres humains. Et bon, à chaque fois, le bestiaire Dragon Quest, c'est un régal et c'est un truc assez exceptionnel et assez vite identifiable.
C'est vrai que sur les monstres, je suis d'accord avec toi, ça se voit particulièrement. Les personnages sont très reconnaissables, mais c'est vrai que les monstres ne le sont pas. Là où ce qui manque peut-être un petit peu par rapport à ce qu'on avait sur, je pense, à Chrono Trigger, c'est peut-être la partie méca, robot et autres qui est peut-être moins présente. Vous me dites si je dis des bêtises.
Bah, j'ai pas vu de robot pour l'instant.
J'ai à moins d'un twist de l'espace, j'en ai pas vu non plus.
Voilà, on est d'accord que ça n'existera pas, parce que c'est pareil, Toriyama, ça fait un petit peu partie de ses spécialités aussi, de dessiner
Bah, Toriyama, en fait, ce qu'il aime bien, c'est les robots, c'est les robots et les montres. Les robots et les monstres.
Donc là, il n'y a pas trop le choix. On a déjà parlé un petit peu de la musique, mais c'est vrai qu'on voulait peut-être revenir dessus, donc Sugiyama, il va falloir...
Alors, c'est pas l'homme de l'artiste, pour le coup, parce que ça reste quand même un négationniste, ouais, notoire au Japon.
Ouais, c'est quand même un peu problématique, comme monsieur.
Voilà, chaque CD acheté sert à financer l'extrême droite japonaise. En
Servais.
Putain.
Voilà. Mais à côté, c'est un gars qui a fait énormément pour la musique de jeux vidéo. Alors, pour la petite histoire, lui, il avait déjà 50 ans, hein, quand le premier Dragon Quest est sorti. Et il avait bossé à Fuji TV en tant que compositeur pour la télé. Il avait fait quelques séries, dont Ideon, qui est un anime culte au Japon. Et en gros, il a postulé pour le premier Dragon Quest parce qu'il aimait bien les jeux vidéo et qu'il y avait une offre pour trouver un compositeur. Et les mecs, au début, ils étaient... Non, mais c'est un scam, c'est pas possible. C'est pas le Sugiyama.
Oui, genre, j'y crois pas trop, quoi. Le mec a postulé pour ça, but.
Et vraiment, il a fait énormément pour la musique de jeux vidéo au Japon, puisque, sur de la musique 8-bit, c'est quand même super intéressant. Enfin, et les musiques en jeu, moi, je les trouve vraiment magnifiques. Elles ont vraiment elles ont vraiment un cachet de ouf. Et qui est assez... Même pour la musique de jeux vidéo, qui je trouve assez... Encore assez, comment dire...
Très orchestral, quoi, très...
Bah ouais,
très composé, quoi.
C'est de la musique orchestrale, c'est de la musique classique, en fait. Mmh. Ça reste quelque chose qui est pas courant dans le jeu vidéo.
Il me semble que c'est un, en plus c'est un entre guillemets un compositeur classique, quoi. C'est-à-dire qu'il a même pour la télévision, il avait tendance à avoir effectivement un orchestre complet et à penser les choses pour orchestre, quoi.
Bah tellement qu'il va faire des concerts de jeux vidéo, notamment et en plus des reprises symphoniques de ses propres jeux, il va organiser des concerts de jeux vidéo et notamment certains où il amènera Nobuo Uematsu pour faire des pistes sur scène, quoi. Outre Dragon Quest, il a vraiment fait d'autres choses à côté.
Bah, de là à se dire que Dragon Quest a été pensé pour orchestral et ensuite a été adapté pour 8 bits et pas dans l'autre sens, il n'y a qu'un pas que nous ne franchirons peut-être pas.
Je serais pas surpris. Mais
de la part d'un vrai compositeur, ça me paraîtrait pas complètement déconnant que le truc ait été pensé pour un orchestre avec des cordes, des cuivres, des percussions et ainsi de suite, et se soit dit, bon, ok, on va faire une version plus minimaliste, 8 bits, enfin plus minimaliste. Faut le dire vite, hein, quand on écoute la version Famicom de Dragon Quest 3 d'un certain nombre de morceaux, ça reste assez impressionnant pour de la Famicom, hein. Les mecs ils sont un peu lâchés aussi, quoi. Donc pourquoi pas, et puis derrière, effectivement, ça a été adapté. Moi je serais pas choqué du tout, parce qu'encore une fois, les BO orchestrales sont sortis au Japon assez tôt, finalement. Dans l'histoire du truc, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui était... totalement inédit ou qui est sorti plusieurs mois plus tard. Non, c'est vraiment des CD qui sont sortis pas en même temps que les jeux, mais quasiment.
Ouais, mais après, l'idée de vraiment avoir pensé sa musique pour ensuite la faire en orchestre, ça, je pense que c'est juste un compositeur. Il n'y a qu'un compositeur classique qui peut y penser dès le début, quoi.
Ouais, ça m'étonnerait pas. On va se faire, tiens, une deuxième pause musicale. Ah là, quelle surprise. Quel enchaînement.
Incroyable.
C'est incroyable, cette émission est vraiment réalisée par des professionnels surentraînés. On va écouter du Dragon Quest 3. C'est ouf à quel point les musiques sont raccords dans cette émission, c'est à croire que ce serait préparé, quoi. Non mais ça me défonce. On va suggérer le morceau du village, je crois.
De jour ou de nuit?
Alors, de nuit ça faisait un peu court. Je sais que c'est ta version préférée, en écoutant les deux, je préfère aussi la version nuit.
Très bien, malheureusement, celle de nuit, hein.
Un peu court. Donc, j'ai préféré
la
mettre
deux fois.
J'aurais pu faire ça.
J'aurais pu mettre les deux, sinon.
J'aurais pu mettre les deux d'affilée, parce qu'effectivement, ça faisait 3 minutes, c'était très bien. Alors là, on va avoir la version jour, ça dure un tout petit peu moins de 2 minutes, et on se retrouve tout de suite après pour parler système de jeu. Et nous voilà de retour. Et donc on va enchaîner, on est toujours sur Dragon Quest 3, on va parler un petit peu des différents systèmes de jeu. Alors on a déjà un petit peu parlé d'exploration, voilà, fallait qu'on revienne sur cette histoire d'indicateur d'objectif, mais voilà, on a déjà dit un petit peu en introduction, l'idée du jeu c'est vraiment vous encourager à découvrir, les secrets, donc vous encourager finalement à aller... explorer, vadrouiller un petit peu façon Breath of the Wild, on l'a dit aussi tout à l'heure. Néanmoins, il y a quand même un indicateur d'objectif.
Ouais, tiens, d'ailleurs, je suis en train de penser à propos de secrets, ça devait être un régal, les cours de récré à l'époque.
Ah oui.
Je pense aussi, oui. Parce qu'effectivement, il y a l'air d'y avoir des trucs bien qu'éplants, quoi.
Bah, moi, il y a des trucs dans la fameuse pyramide dont on parlait juste avant, je l'ai su parce qu'on me les a dit, hein.
Genre, ah, on te l'a dit, un PNJ te l'a dit ou un autre
non,
joueur?
Un autre joueur me l'a dit, et genre, ça me fait plaisir de revenir à ce moment que j'avais connu avec Breath of the Wild notamment, où t'es en mode genre, ah moi j'ai trouvé ça, je suis allé là, moi je trouve ça trop fun.
T'as un côté très très court de récré où effectivement, je sais que pour Breath of the Wild, moi j'ai le gamin par exemple qui il jouait en même temps que ses monos au centre de loisirs, tu vois.
Ouais.
Et il arrivait à leur apprendre des trucs, et les monos arrivaient à lui apprendre des trucs, et en fait, t'avais vraiment ce côté très très social dans le jeu.
C'est génial.
Je pense qu'en 88, sans internet au Japon, effectivement, il devait y avoir pas mal de gens qui s'échangeaient des astuces à la con. Et je suis très content qu'en 2024, ça continue de fonctionner, en fait, ce genre de choses-là.
Ouais, et puis en vrai, sur Streamex, justement, ils ont fait le compromis de mettre un marqueur d'objectif. mais ils n'ont pas rendu le jeu plus linéaire ou plus... pour autant, c'est vraiment... On te file les infos et il faut que tu ailles à l'endroit où on t'a dit d'aller. Tu as le marqueur d'objectif si tu veux aller vite. Mais si tu décides de le supprimer, le jeu est tout à fait jouable. Et je vous recommande de le faire parce que je trouve que l'expérience est assez chouette de vraiment arriver quelque part, parler un peu à tout le monde, essayer de comprendre qu'est-ce qui est une quête annexe, qu'est-ce qui est une principale, qu'est-ce qui est juste un petit peu de fluff pour le fun. Et d'essayer d'identifier ce qui va être utile pour la suite. Il y a vraiment ce côté, comme je disais tout à l'heure, jeu de rôle sur table. Tu parles à des PNJ, tu essaies d'obtenir des informations de leur part pour avancer. Et je trouve que c'est extrêmement satisfaisant en fait d'avancer dans le jeu comme ça. Et de progresser. Des fois, on tombe juste par surprise, par hasard, sur la marche à suivre, en fait.
Oui, finalement, l'indicateur d'objectif, je gâche le truc, mais ça te retire une petite partie du plaisir d'exploration, quoi.
Après, si vous voulez aller vite, mettez-le. Hein. Moi, je vous recommande de pas le mettre.
Alors, est-ce que c'est un jeu qui est meilleur quand on se perd dedans ?
Oui, clairement. Enfin, pour moi, c'est ce que j'allais dire. C'était si le marqueur d'objectif est activé, c'est comme si dans Breath of the Wild, le marqueur sur la carte était l'objectif de la quête et pas le donneur de quête.
Effectivement.
On perd ce côté recherche.
Alors après, on dit ça, mais sur Breath of the Wild, on te dit, bah Ganon est là, va le tataner, puis t'as effectivement l'objectif, la jaune, voilà, démerde-toi. Bon, j'exagère un peu, mais...
Après, c'est pas un jeu où tu vas vraiment énormément te paumer, parce que finalement, comme on dit au début, les zones sont restreintes, après ça s'ouvre, mais là où j'en suis dans la version ouverte, j'arrive quelque part, je suis pas bloqué pour autant, enfin, on me donne des indices sur la marche à suivre... qui me permet peut-être de débloquer d'autres endroits où j'avais été bloqué tout à l'heure. Donc, au final, les pièces du puzzle se font assez facilement. C'est pour ça que je trouve que finalement, c'est pas très très bloquant. Je finis en une trentaine d'heures, donc c'est pas vraiment un truc qui ralentit vraiment l'absence de marqueur. Et ça rend d'autant plus la découverte satisfaisante.
J'allais dire, en fait, c'est typiquement le truc où, effectivement, si tu sens que tu tournes en rond et que ça fait une heure que tu sais pas du tout où faut aller et que les objectifs n'avancent pas, ça peut être un bon truc à réactiver pour dire « Ah, ok, c'est par là, très bien. »
À tout moment, tu peux le mettre dans les options.
Oui, tout à fait. Non, mais ça, c'est bien, tu vois, que ce soit désactivable à volonté ou activable, au contraire, quand t'en as marre, t'es paumé, c'est la troisième quête annexe, tu pensais avancer, t'en as ras-le-bol, ce qui est aussi quelque chose que... qu'on a tous connu, à se dire « Ah, ça doit être là, puis en fait, non, c'est pas là. Ah, bah non, c'est là. Bah oui, mais non, pas du tout. » Bon, à un moment, je peux comprendre que le...
D'ailleurs, est-ce que c'est une nouveauté du remake, tout simplement, la carte ?
Je pense, ouais. Là, je pense que la carte, c'est une nouveauté. Ça simplifie bien la vie.
Alors, la carte, ça va peut-être expliquer, là, pour les gens
qui ont pas
joué.
La carte du monde, en fait.
Tu t'appuies sur une touche et t'as la carte du monde. Ou la carte de la pièce dans laquelle tu es. Quoi.
Ah oui, alors d'accord. La carte dans les donjons, je trouve que c'est peut-être le côté un peu dommage. Parce que moi j'étais arrivé dans un donjon qui est un repère de bandits. Et c'est vraiment une espèce de labyrinthe, enfin c'est pas un labyrinthe, mais c'est en gros c'est une grande zone avec des salles qui sont liées par des couloirs. Et en fait tu ouvres la carte, tu sais direct où tu dois aller. Alors ouais, je pense qu'à l'époque tu t'es paumé et l'idée c'était que tu te paumes pour justement
quand t'arrives
au bon endroit, tu es dans la merde.
Typiquement la pyramide aurait dû être un labyrinthe. Mais ce qui aurait été cool, du coup, c'est, je sais pas, que la carte se trouve quelque part, ou une connerie comme ça, quoi.
Ou alors qu'elle se complète au fur et à mesure que t'avances, tout simplement.
Aussi. Tout bêtement, ouais, oui.
Là, t'arrives dans une pièce, t'as toute la carte. Bon, dans les villages, c'est ok, la carte du monde aussi. Les donjons, j'avoue que j'étais un peu genre... Ah, ouais.
Bon. Oui, effectivement, le village, l'overworld, ça peut se comprendre, surtout quand tu débloques les zones, plus ou moins au fur et à mesure. Mais c'est vrai que sur les donjons, c'est peut-être un poil dommage. Je vous suis là-dessus, c'est...
Ça rend certaines capacités qu'on te donne, notamment les capacités de voleur qui permettent de savoir où sont les escaliers ou où sont les coffres, ben, un peu inutile parce que je vais juste ouvrir la carte, quoi. Tu vas voir où vont être les coffres puisque c'est les cul-de-sac.
Oui, d'accord. Donc effectivement, ça coupe un peu le truc, quoi. C'est un peu dommage.
Il y a d'autres trucs comme ça dans le remake. Genre, t'as deux sorts de... T'as un sort qui s'appelle téléportation qui te permet de téléporter où tu veux sur les lieux que t'as déjà visités. Et dans Dragon Quest à l'origine, tu ne peux pas l'utiliser...
À l'intérieur ?
À l'intérieur.
Ouais, d'où le petit dialogue à la con, ok, vas-y.
Et ils l'ont retiré dans ce remake, tu peux te téléporter où tu veux, et t'as un autre sort qui s'appelle Evac, qui permet de sortir les donjons. Mais du coup, maintenant que tu peux te téléporter quand tu veux dans les donjons, bah Evac, il sert à rien. Mais ils l'ont gardé.
Ah.
Et ça fait partie des petits trucs où t'es là, genre... Ouais, ok, ça se voit, ouais, que ça t'est pensé d'une certaine façon avant.
C'est ça, il y a peut-être un petit décalage entre l'original et le remake là-dessus, c'est-à-dire il y a des choses qui n'ont pas été repensées ou qui ont été, entre guillemets, portées telles quelles.
Ouais, qui ont été laissées là parce que c'est Dragon Quest, et Dragon Quest, c'est très dur de changer les choses.
C'est clair. Mais tu vois, je pense qu'ils l'ont justifié en deux secondes avec un petit PNJ qui te dit « Tiens, ça c'est l'objet ou le sort qui te permet de sortir d'une pièce où tu aurais des difficultés. Il y a une époque où quand on l'utilisait, on se fracassait la tête au plafond, mais t'inquiète, c'est corrigé.
» Ah oui, je vois mieux le truc.
On n'a pas parlé, mais le jeu a aussi un très très bon humour de manière générale et une certaine forme d'autodérision sur ce qu'il te présente.
Bah ça c'est plutôt une bonne chose, surtout quand on fait des choses et ça rajoute d'autant plus ce qu'on disait tout à l'heure, dès que t'as un tout petit peu de truc dramatique, tout d'un coup ça prend une toute autre dimension parce que on te raconte des choses pas trop sérieuses, un peu légères, on a de l'humour et tout ça, tout d'un coup dès qu'on met du drame, paf, ça c'est beaucoup plus impactant.
Ouais, ou alors ça te cale ça entre deux passages dans des donjons où tu te fais assaillir par les monstres très très souvent, parce que le rythme des combats aléatoires est quand même assez vénère.
Oui.
Et du coup, ça rend l'exploration des donjons, c'est une expédition. Faut l'envisager comme ça.
Il va falloir qu'on en parle justement du rythme, puisqu'on nous a dit. Finalement, c'est un enchaînement dans lequel t'as l'overworld, t'arrives dans un village, tu vas aller parler à des PNJ, on te dit qu'il se passe un problème à tel endroit, tu y vas, il y a un donjon, tu l'explores, tu ressors dans l'overworld, tu retournes au village. Enfin, finalement, c'est un grand classique du RPG, j'ai envie de dire, en termes de rythme, mais j'ai l'impression que le rythme des donjons, c'est pas tout à fait ça. Parce que je vous ai vu, tous les deux, là, me décrire le truc en mode « Ouais, c'est un peu la mission, quand même, hein. Faut prendre ton sac, ton couteau, ta mitraillette, et puis t'y vas avec ta teub et ton couteau, quoi. »
Pour ceux qui ont joué à Persona,
quand vous allez dans les donjons... J'allais dire Megaten, exactement,
Enfin, moi, je pense surtout à Persona, parce que quand vous allez dans le donjon de Persona, votre but, c'est d'aller le plus loin possible... Et vous avez une limite qui s'appelle votre barre de MP. Bah, ils ne sont pas allés chercher très loin, hein. C'est ce qui se passe dans Dragon Quest. Tu rentres dans un donjon, et tu sais qu'il va falloir faire attention à tes MP si tu veux aller au bout du premier coup. Et le côté c'est là où justement le fait qu'on ait une carte facilite un peu la vie, parce qu'on sait directement où aller. Mais du coup, l'idée, je pense qu'à l'époque, c'était de te faire paumer dans des donjons, où t'allais affronter des monstres, et fallait voir jusqu'à quand t'étais prêt à rester dans le donjon avant de te faire casser la gueule. Et pour le coup, un donjon, ouais, ça se prépare, faut prendre des ingrédients, des objets, être sûr qu'on a les bonnes magies, des armes à niveau, des équipements à niveau avant d'aller dedans, parce que faut aller au bout du donjon, il y a un boss à la fin, il n'y a pas de point de sauvegarde avant de dans les donjons.
Ah oui, d'accord, donc en fait, t'as vraiment genre un point de sauvegarde au début, et ensuite c'est en mode dungeon crawler, quoi. C'est
le point de sauvegarde
le plus profond possible.
Et au village, exactement, il est à l'église du village, le point de sauvegarde.
Waouh.
Ah bon, ça c'était dans l'original, dans le remake, il y a la sauvegarde auto. À chaque fois que tu fais un combat, à chaque fois que tu changes de pièce.
Ouais, parce que effectivement, sinon c'est, ça peut vite être raide si t'es pas. Enfin, la vraie question c'est, est-ce que tu peux vraiment tomber sur des donjons où tu n'aurais pas le bon équipement et donc de toute façon
oui.
Tu serais condamné à comment. Ah putain, allez bâtard.
Oui, mais tu le comprends vite. Tu le comprends vite. C'est ce que je disais.
Dès la première pièce, on te met un monstre qui ne peut pas être battu si t'as pas le
jeu X,
et donc voilà.
Voilà, le jeu est juste. Le wipe, comme on dit, n'est pas fatal. Alors la punition, c'est tu ressuscites la dernière église que t'as croisée avec la moitié de ton or en moins. Ou tu charges ta sauvegarde rapide.
Oui, donc ça va, ça reste assez fair.
Alors sachant que le jeu quand même des fois peut être un petit peu cruel. Puisque comme dans beaucoup d'autres RPG, tu peux avoir parfois l'avantage en combat, et puis des fois c'est les ennemis.
Ouais.
Et puis les ennemis, s'ils attaquent tous au premier tour, tu peux avoir très très mal.
Le seul vrai coup de pute que j'ai eu, tu vois, c'est dans la pyramide où piège à la con, je me retrouve dans un sous-sol, et là j'ai le petit dialogue qui dit « Ah tiens, il y a un truc dans l'air qui fait que tes magies marchent plus ». Et là, tu te dis, putain, mais effectivement, il y a un PNJ au village d'avant qui m'avait dit de faire gaffe à ça, et je suis tombé dedans comme un con. Et tu te dis, bon, mais magie marche plus. Ok, j'ai quand même accès à mon sort de soin, je vais le lancer. Puis là, le texte te dit, non, mais en fait, tu le lances et il se passe rien.
Moi, j'essaie de faire avec les ailes de chimère pour me barrer, mon fort. Ah non, ouais. Non, la magie, l'aile de chimère est bloquée.
Non, mais alors, tu sais, ce que ça me rappelle, ça aussi, ça me rappelle le jeu de rôle sur table aussi, hein, dans lequel le maître jeu te dit, vas-y, essaye de faire ton sort de soin. Ah, ça marche pas. Nique-toi. Et voilà.
Vraiment, il y a aussi cet esprit, effectivement. Tu joues à des jeux de rôle sur table où tu vas t'enfoncer dans un donjon et tu vas devoir faire attention à ce que tu fais et gérer tes ressources. Et ça, je trouve que c'est très très satisfaisant, en fait. C'est un challenge qui est intéressant. Que les combats en soi sont pas très très durs.
Ils montrent trop de jeu. Mettez-les en ultra rapide.
Ouais, et si tu prends 2-3 niveaux dans un donjon, tu roules sur les monstres, hein, globalement. Ça, c'est très facile d'avoir un... façon de... c'est très facile, en fait, de monter de niveau et de surpasser ce qu'il y a en face.
Par contre, avec la petite facilité du fait que quand tu prends un niveau, t'es restuffé à fond.
Ouais, ça, tu joues pas mal là-dessus, du coup.
Oui, donc l'idée, c'est vraiment de monter de niveau dans le donjon pour, entre guillemets, se soigner et se...
Gratos.
Ouais, voilà. Ok, oui, donc effectivement, là-dessus, ça... du coup, d'où le côté très fair du jeu, finalement.
C'est nouveau du remake, ça. Le...
Ah, dans l'original, le remplissage complet des barres. Ta gueule, quoi, c'est...
Ouais, bah ça fluidifie un peu l'aventure, parce que sinon, faut ressortir, oui. Aller dormir, revenir dans le donjon.
Ouais, c'est un peu pénible. Alors, si tu sors du donjon avant de l'avoir fini, parce que tu te rends compte que ça va pas et que tu reviens, est-ce qu'il faut que tu te retapes les premiers étages ou les premières pièces ou...
Oui, putain, yes. Évidemment. Mais du coup, comme t'es où aller, tu vas plus vite.
Oui,
oui. Puis t'as pris du niveau, donc t'éclates les monstres, et puis t'as toujours un petit objet, genre le répulse à la Pokémon, quoi. Ou les... si les ennemis aléatoires sur lesquels t'es censé rencontrer... Je peux rien dire cette phrase. Les ennemis qui sont censés t'embêter sont très 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 sous niveau par rapport à toi, bah le combat se déclenchera pas.
D'accord. Oui, donc t'as quand même un côté. Mais ça veut quand même dire que t'es obligé de faire les donjons absolument du premier coup, quoi. Enfin,
non,
traite.
T'es pas du tout obligé. Par contre, effectivement, à partir du moment où tu rentres dans le donjon, l'objectif du donjon, tu dois l'atteindre. Faut réussir. Tu peux pas te soigner entre temps ou sauvegarder entre temps. C'est, tu rentres dans le donjon, tu dois arriver au bout si, pour le finir.
Donc il est d'une traite.
Oui, mais rien ne t'empêche d'y aller, puis de sortir, puis d'y aller encore un peu plus loin, puis de sortir, etc.
Oui, d'accord.
Oui, tu peux dire, je fais un trajet, je récupère tous les coffres, et je ressors, je vais me soigner, et je remonte pour aller affronter le boss, et là j'y vais direct.
D'accord. Ok, je vois tout à fait le type d'exploration. Donc ça,
il
n'y aura
pas de malus. T'as pas de malus à faire ça.
D'accord, ça c'est une bonne chose aussi. Du coup, le dernier truc qui nous reste à aborder, c'est le système de combat lui-même. Alors je sais que c'est du tour par tour, ça je suis au courant. Je sais que Dragon Quest, généralement, tu as le fameux, on l'a tous vu, avec le petit machin bleu, là, le slime, qui est au milieu de la pièce, et puis un gros menu à gauche dans lequel tu dis, tu tapes, machin, tout ça. Ça ressemble beaucoup à ce qui se faisait sur Phantasy Star, par exemple, sur Master System. Voilà, c'est un système finalement assez classique pour moi qui a été plus ou moins inventé par Dragon Quest, parce que Final Fantasy utilise plutôt une vue de côté avec les personnages d'un côté de l'autre.
C'est inspiré de Dungeon Crawler sur ordinateur de l'époque.
Oui, c'est ça. C'est pour ça que la référence, encore une fois, au Dungeon Crawler est pas complètement innocente. Hein, ça ressemble vraiment à ça, quoi. Tu explores ton donjon, puis tout d'un coup, tu te retrouves à la première personne parce que bah, t'as le monstre en face et faut lui casser sa gueule, quoi.
Ça, bah là, c'est pareil. Hein, c'est du tour par tour très très classique. Alors, t'as la possibilité de donner des ordres directives à tes compagnons et à toi-même. C'est que tu peux décider juste de ne pas agir pendant les combats et laisser l'ordre y faire. Il se débrouille très bien. Hein. Il va même improviser des trucs que t'aurais pas pu faire toi. Parce que si jamais, avant le soigneur par exemple, t'as un mec qui se retrouve à 3 points de vie, il va le soigner. Alors que toi, tu l'aurais probablement pas fait vu que tu pouvais pas anticiper. Il y a des petits avantages, ça permet juste de se faciliter la vie quand tu dois... dans des zones où tu sais que t'es déjà trop fort pour les monstres et que t'as pas envie de t'embêter à faire les commandes. Mais ça, tu laisses le jeu du jeu tout seul, quoi.
Et du coup, d'où la remarque de Mecton, mettez le jeu en ultra rapide parce que...
Ouais,
ça...
Le mec qui a décidé de la vitesse normale, c'est un con, c'est pas possible, quoi.
Oui, il est japonais, monsieur.
Non, mais en normal, c'est vraiment, vraiment lent.
c'est comme sur Famicom, hein.
Non, sur Famicom, je pense que ça devait être la vitesse fast... de maintenant,
ouais, je serais pas surpris que ce soit lancé sur Famicom. Hein.
Tu crois
plus, hein. Ah, écoute, faut quand même calculer tous les dégâts, les machins, les pourcentages, les trucs. Vous rigolez, hein, mais je crois que c'est Jean Fulgence m'en est témoin. Bon, il gueulera parce que j'ai déformé ses propos. Il disait sur Famicom Wars, puisqu'on l'a fait il y a un petit peu plus d'un an et demi, on a fait l'intégralité des Advance Wars, y compris Famicom Wars, Super Famicom Wars, Game Boy Wars et ainsi de suite. On a vraiment fait tous les jeux. Il disait sur NES. Enfin, sur Famicom Wars est une tannée, parce qu'en fait, l'ordinateur met facile 3, 4, 5 minutes à jouer son tour, parce que... Bah,
oh la vache!
Bah oui, mais...
Ok,
en fait,
bah je retire, ouais.
Quand tu dois bouger X pièces sur une NES, avec l'IA qui doit calculer, selon des règles un peu précises, qu'est-ce qu'il faut faire, bah ça reste une NES. C'est pas fait pour faire du gros calcul, quoi. Et je crois me souvenir que le Fire Emblem sur NES, c'est un peu pareil, quoi. C'est Voilà. Et je sais que Jean Fulgence avait passé, avait la, une, il avait configuré un raccourci spécial sur son émulateur pour faire juste x8 au moment où c'était l'ordinateur qui joue, quoi.
Ça me rappelle. C'était insupportable. Fire Emblem sur Super NES, c'était pareil, hein, c'était lent au possible.
Ouais, mais... Ah non, mais c'est ça, à chaque fois que l'ordinateur joue, en fait, l'arbre de décision pour arriver à prendre le truc, faut vous imaginer que bah, c'est juste une NES, c'est juste une Super NES, donc. C'est pas comme un shoot'em up où finalement tu te fais éclater en une fois, quoi. Là, faut que l'ordinateur se dise très bien, bah j'ai tant, mon comportement par défaut c'est ça, faut que j'aille attaquer celui qui est le plus faible, donc t'as quand même. Mine de rien, ça fait un peu de calcul.
Mais du coup, en plus des combats, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Hein, si vous avez, déjà joué à RPG tour par tour, en vrai Dragon Quest, c'est vraiment le truc le plus basique. Hein.
Oui, c'est t'as attaque, des capacités, attaque physique, avec, magie.
T'as des capacités élémentaires, c'est des armes, des faiblesses, d'autres pas. Alors, un truc intéressant, les sorts de statues fonctionnent sur les boss.
Oui.
Vous pouvez mettre l'anti-magie sur un magicien. Voilà.
Ah, niquez-vous.
Pensez à essayer de temps en temps. Les debuffs, les trucs qui font baisser l'attaque et la défense, abusez-en. Pour les boss, ça va vous sauver la vie, je vous le dis tout de suite. Donc voilà, ça c'est pas mal. Après, il dure pas très longtemps. Faut en profiter, mais ça dure pas très longtemps. C'est le petit truc sympa. L'autre truc intéressant du système de combat, c'est les jobs.
Oui, voilà, j'allais dire, il y a aussi un système de jobs, mais du coup qui ne sert que pour les combats ou qui sert un peu à l'extérieur aussi, ou c'est vraiment...
Ça, pas du tout à l'extérieur. Ah si, alors ça sert.
Si,
qui sert à l'extérieur.
Et est-ce que... Attends, je dis une connerie ou c'est... Si, il y a une classe qui te permet de savoir si un coffre est un vrai coffre ou un mimique à la con.
Ah oui, ça doit être le voleur. Oui, alors, effectivement, il y a quelques classes qui servent à l'extérieur qui vont être surtout le voleur, le marchand et le monstrologue. Et la nouvelle classe du remake. Maintenant, il y a une arène de monstres dans le remake. Pas un truc très très passionnant, mais en gros...
Pour la thune.
Ouais, c'est cool pour la thune. Mais en gros, on peut... Des fois, en se baladant sur la carte, on va rencontrer des monstres qui se baladent, qui sont inoffensifs. Et on peut les recruter. L'intérêt du monstrologue, c'est qu'il facilite le recrutement, parce que sinon, il faut parfois utiliser des objets. Et qui permet aussi... qui va gagner en puissance en fonction du nombre de monstres que tu as recruté. Et c'est une classe qui est assez équilibrée, donc qui est très facile à utiliser dès le début du jeu. Alors, c'est la première classe à avoir un sort de soin pour toute l'équipe, ce qui est très pratique.
Ah, chouette ça.
Le marchand, c'est la classe orientée thune, sans surprise. Il a un sort qui permet d'invoquer de manière aléatoire... soit une auberge, soit un marchand, soit un représentant de l'église pour sauvegarder.
Ah, excellent.
Enfin, tu peux pas sauvegarder, mais tu peux ressusciter à la volée. C'est assez rigolo. Okay. Et le voleur, c'est pour tout ce qui est... trouver les coffres, les pièges et compagnie. Donc ça, c'est la classe utilitaire. Et après, t'as les classes classiques, le prêtre, le guerrier, l'artiste martial...
Sorcier et
le magicien. Et alors, t'as la dernière classe qui est le bouffon, mais alors...
J'ai pas compris. C'est alors, le bordel, ça.
Alors, le bouffon, faut pas l'utiliser au début du jeu, mais s'il atteint le niveau 20, il a accès à la meilleure classe du jeu.
Ah. Pourquoi il faut pas l'utiliser astuce, au début quoi. Du jeu, Mortal? C'est parce qu'en fait, des fois, il dit « Non, j'ai pas envie, je vais faire autre chose. »
Pardon.
Attaque tel monstre. Non, je vais plutôt raconter une blague.
C'est le Dracaufeu de Sacha dans le dessin animé Pokémon.
Ah mais c'est vraiment... Alors ça, c'est le genre de truc, les personnages qui ont leur propre... Qui ont leur vie propre, en mode j'en ai rien à foutre du joueur, ça c'est le genre de truc qui m'horripile au plus haut point. Je ne supporte pas ça, c'est vraiment le truc...
Qu'est-ce qui se passe si tu fais un bouffon avec une personnalité de chieur? Oui, parce qu'on peut... Donc, il y a un système de personnalité de nos compagnons. Au-delà du fait que les descriptions sont marrantes, ça va être prétentieux, gros bras, ce genre de truc, ça influe en fait sur le développement de leurs stats sur les prises de niveau.
Et dans les aides de jeu, ils te disent quelle personnalité influe sur tel stat, donc tu peux optimiser si tu as envie. Ça influe pas sur les dialogues, puisque comme le héros, les personnages qui t'accompagnent ne parlent pas. D'ailleurs...
Sauf sans le puff-puff.
C'est ça. D'ailleurs, c'est pas des mecs que tu recrutes en avançant dans l'aventure. Hein. Au début du jeu, on te dit, va à la taverne. Tu vas à la taverne, et on te propose une équipe. Et tu peux la prendre, ou tu peux décider de monter à l'étage et de choisir faire toi-même ta propre équipe. Donc dès le début du jeu, t'as 4 mecs, avec les classes que t'as envie. Donc ça, c'est assez cool en termes de personnalisation. Hein. Tu peux choisir leur voix, leur apparence... Et un petit peu plus tard dans le jeu, je pense au bout de 10 heures à peu près, il y a un lieu qui s'appelle l'abbaye des vocations. Et tu vas accéder, on t'encourage à y aller. Et en fait, tu vas pouvoir changer le job de tes personnages, et même changer leur apparence et leur voix si t'as envie. Donc il y a vraiment un côté custom que tu peux avoir, sachant que changer la classe d'un personnage, ça fait revenir niveau 1. Avec la moitié de ses stats, ce qui est déjà plus que ce qu'il avait au niveau 1 à la base. Hein. Il va reprendre des niveaux très très vite, puisqu'il va recommencer niveau 1. Donc avec la courbe disquée d'un personnage qui est niveau 1. Et surtout, il va garder toutes ses compétences de son ancienne classe. Donc moi, ce que j'ai fait, par exemple, c'est que là, j'avais un prêtre, je l'ai passé voleur. Et ben maintenant, voleur, c'est le soigneur. Et il agit toujours en premier, parce que c'est le plus rapide.
Putain, oui, d'accord, tu peux... Un peu comme dans un Fire Emblem, où tu peux commencer à faire des combos un peu pétés quand tu commences à reroll... Enfin, reroll. Revenir au niveau 1, mais en ayant changé de classe, en ayant évolué de classe, oui, c'est ok. Donc, tu commences quand même à avoir une espèce de méta-système pour les personnages qui devient intéressant. Quoi.
Voilà, et tu combines ça aux personnalités que tu peux modifier à l'aide de bouquins ou de certains équipements, il y a vraiment, si t'as envie de faire de l'optimisation de stats, du min-maxing, comme on dit, tu peux t'amuser avec ça. Mais déjà, juste reclasser une fois les personnages, ça les rend beaucoup plus forts que ce qu'ils étaient avant. Donc ça vaut vraiment le coup. Hein.
Okay. Est-ce que tu sais si le reclassage, on peut encore le reclasser?
Oui, parce que j'ai déjà retracé mon prêtre, j'avais déjà reclassé une fois avant de la mettre en voleur.
Il y a tellement moyen de se marrer à faire des combis complètement claqués.
Oui, bah surtout qu'en plus, revenir niveau... Ah, la seule limite, c'est être niveau 20. Il faut être niveau 20 pour pouvoir se reclasser. Mais en fait, à partir du moment où t'as l'option du reclassement, revenir niveau 20, c'est très rapide.
Ah, donc on peut vraiment personnaliser à mort son équipe, du coup. C'est vraiment... On peut aller au bout du truc, quoi.
Oui, si tu veux optimiser, faire en sorte que tout le monde puisse soigner dans l'équipe, tu peux.
Ok. Bon, c'est plutôt cool. Est-ce qu'on a d'autres petites choses à rajouter sur ce Dragon Quest 3, ou est-ce qu'on a à peu près fait le tour? J'ai l'impression qu'on est à peu près au bout.
Oui, ben, faut se dire que ça reste un jeu de 88, et en fait, le remake, je pense que c'est important de le souligner, c'est vraiment... Il a pas cherché à... C'est pas le remake du premier Metroid, qui a vraiment essayé d'être... qui a vraiment essayé de moderniser Metroid. Là, c'est vraiment, on a pris Dragon Quest 3, on a pris son scénario, on a pris son game design, on l'a mis avec un bel écran, on a rajouté des trucs pour simplifier la vie quand même, parce qu'il faut pas déconner.
Oui, il y a 2-3 options. C'est plus de la qualité de vie finalement que véritablement un remake au sens où on réimagine l'ensemble.
C'est ça, on n'a pas réimaginé vraiment le monde, les lieux doivent être au moins les mêmes, le game design est le même. Ça prend même, enfin, l'écriture est la même, les scénarios est le même. Donc. Globalement, c'est un peu une façon assez... En fait, c'est un petit peu un remaster Blu-ray d'un film des années 80, quoi. C'est genre... c'est quasiment pas changé, mais c'est quand même plus sympa à regarder sur sa télé.
Bah, c'est-à-dire que oui, c'est peut-être un peu moins austère que la version Famicom, de toute façon, et puis...
Très probablement.
Ouais. Vous focalisez pas, au début, la première heure va être un peu rude, le temps de pouvoir encaisser 2-3 coups sans crever, et après ça se déroule bien.
Ouais, moi j'en suis un moment avec le reclassage, j'ai pas trop de difficultés avec les combats du jeu, et du coup mon challenge actuellement c'est la partie exploration, et ça tombe bien, moi ça m'éclate en fait de pouvoir faire ça, et j'avoue que dans les JRPG ça me manque un peu ce côté essayer de trouver la marche à suivre soi-même.
Oui, on te tient plus par la main, maintenant t'es un grand, vas-y débrouille-toi quoi.
Exactement.
Bref, eh ben ça m'avait l'air très très bien tout ça, ça donne presque envie de s'y mettre, et pourtant je ne connais pas du tout Dragon Quest, mais c'est vrai que j'aime bien les remakes HD 2D, enfin 2D HD, moi je trouve que le style est tout à fait plaisant, si tu veux, quand c'est joli à l'écran déjà ça donne envie de jouer.
Mmh. Non, t'aimerais bien, ça parle pas beaucoup. Hein.
Ben voilà, ça c'est bien, j'aime pas quand ça piaille tout le temps.
Oui, puis même les petits scénarios dont on parlait, ça, en fait en une demi-heure, une heure, ils sont bouclés. Hein.
Oui, c'est ça, non, mais c'est pour
enfin,
ça
que c'est un jeu de 30 heures.
Plein de petites histoires courtes, je sais que voilà, et en plus, grâce à vos conseils, hein, je le redis encore, moi Chrono Trigger ça m'a bien plu, j'ai pas été au bout du truc, mais j'ai fait une grosse dizaine d'heures, j'étais bien, et puis ça donne presque envie de finir en fait, parce que je dois plus être très loin en plus, donc c'est un peu con, j'avais un peu lâché pour d'autres raisons, mais voilà, en tout cas ça donne presque envie de s'y mettre. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, et ben on va se quitter là, c'est déjà bien, hein, ça fait une petite émission. On va se retrouver dans 2 semaines, ce sera la dernière émission de la saison. Mais on va faire le bilan de l'année. Et il y aura un jeu. Yeah. Voilà, il y aura un jeu. Je sais pas ce que ce sera le jeu pour l'instant. La dernière fois, on a fait le truc avec l'IA toute pétée, c'était assez drôle, mais voilà. Je sais pas si on pourra se permettre de refaire ça. Non pas que c'est pas drôle, hein, mais c'est juste, bon... C'est un peu plus compliqué pour la partie podcast, on va dire, même si... On a essayé. On l'a déjà faite, celle-là, mec, non.
Merde.
Et oui. Voilà, bref. Quoi qu'il arrive, on vous fait des gros bisous, on vous retrouve dans 2 semaines, on fait le bilan de l'année, et on a déjà une émission qui est bookée pour la saison prochaine, qui sera les Boomer Shooters, parce que j'en ai marre de la retarder. Donc,
voilà. Ça y est, il me l'a imposé. C'est le devoir de vacances.
Ce sera les devoirs de vacances, exactement, parce qu'il y en a plein, et on va bien arriver à faire quelque chose. Bref, on vous fait de très, très, très gros bisous, on vous dit à dans 2 semaines. Ciao tout le monde.
Ciao.
Bisous.